Vous écoutez France Culture.
Talmudique. Une émission de Marc-Alain Wachnin. Mireille Hadas-Lebel, bonjour.
Bonjour.
Historienne spécialiste de l'histoire de la langue hébraïque, de l'histoire des religions et plus particulièrement de l'histoire du judaïsme dans le monde antique, vous êtes professeure émérite de l'Université Paris-Sorbonne. Vos recherches, qui portent sur les liens de la Judée avec le monde hellénique et romain, ainsi que sur l'importance de la diaspora juive à travers l'étude des auteurs grecs ou romains, sont accessibles au grand public par de nombreuses publications. On vous doit entre autres trois importantes biographies qui ont fait date, Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie et Hillel l'Ancien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de Pâques, qui tombe cette année le sixième jour de la fête de Pessah. La Pâque juive. Cette fête dure 7 jours en Israël et 8 jours en diaspora. Elle est, selon le texte biblique qui en raconte l'événement, la fête de la libération de l'esclavage d'Égypte. Lors du Seder, repas pascal, du premier soir de la fête et du deuxième en diaspora, sont bues 4 coupes de vin qui correspondent à 4 modalités de la délivrance d'Égypte. De nos jours, certains mouvements chassidiques, comme le mouvement Lubavitch par exemple, organisent le dernier jour de la fête un repas appelé Soudat Mashiach, c'est-à-dire le repas du Messie. Maïmonide, le grand codificateur de la loi juive, a même inclus cette croyance parmi ses 13 articles de foi, croyance transmise dans une formule célèbre « Je crois d'une foi parfaite en la venue du Messie et même s'il tarde, malgré cela, j'attendrai chaque jour qu'il vienne. » Or, dans votre dernier livre, Mireille Hadas-Lebel, une histoire du Messie parue aux éditions Albin Michel, vous nous faites découvrir une chose tout à fait surprenante, c'est que le Messie n'a pas toujours existé, qu'il n'est pas biblique proprement dit et qu'il s'est constitué au fil des siècles, évoluant dans sa signification, son importance et sa centralité. Surprise que vous soulignez par cette formule, comme souvent, les idées les plus répandues ne sont pas les plus exactes. Cette démarche déconstructive est paradigmatique car bon nombre de concepts religieux et de rites et de croyances, de manière générale, mais dans le judaïsme en particulier, sont tellement inscrits dans la pratique et la foi qu'on oublie toute l'épaisseur historique dont ils sont porteurs, toute la richesse dynamique de leur constitution. Comment, Mireille Hadas-Lebel, cette question du Messie s'est invitée et peut-être même imposée dans le cadre de vos recherches ?
Merci. Tout d'abord, je précise que je ne fais pas partie d'une école de pensée déconstructionniste, quelle qu'elle soit. J'essaie d'être historienne et historienne des idées. Donc, lorsqu'on est historien, on est obligé de partir à la racine, à la base. Et partant de la base biblique, eh bien, je m'aperçois que Mashiach, dans la Torah, dans les livres historiques, et même dans les rares fois où cela apparaît chez les prophètes, ne signifie pas Messie au sens où nous l'entendons. C'est-à-dire que s'il y avait un même majuscule en hébreu, ce qui n'existe pas, donc on n'aurait pas Ha-Mashiach. Et pourtant, cette idée est très répandue dans le judaïsme, comme vous l'avez dit. Ceci étant, vous avez aussi parlé d'un groupe qui est quand même très minoritaire de nos jours, qui est le groupe des Lubavitch, qui lui croit vraiment d'une foi pleine et entière dans la venue du Messie et même en son maître qui va revenir en tant que Messie. Mais si vous interrogez les uns et les autres, je ne suis pas sûre que cette croyance soit aussi répandue. Elle est certes présente dans la liturgie en permanence. Pour combien est-ce autre chose qu'une formule que l'on répète automatiquement ? Et pour Maïmonide, que vous avez cité, qui était un philosophe rationaliste, si vous creusez un petit peu, il croit en la venue du Messie. Mais qu'est-ce que les temps messianiques ? Ce sont les temps où Israël, au sens du peuple juif, ne sera plus à asservi aux nations. Donc on n'est pas tout à fait sûr qu'il ait mis là-dessous un personnage charismatique, quel qu'il soit.
C'est-à-dire que dans la phrase en hébreu que j'ai relevée, il dit « Le Amin Sheyagia Amashiach, Mi Bet David, Veugadol, Mikol Amelachim ».
Il reprend les formules traditionnelles.
Voilà, mais n'allons pas si vite, parce que vous avez dit des choses très importantes qu'on va reprendre. Je pense que pour commencer à élucider cette histoire du Messie, vous, en tout cas, vous êtes parti à la recherche du terme hébraïque en véritable archéologue textuel. Ouais. Et je tiens à dire par rapport à votre première réponse que quand j'ai utilisé le terme de déconstructif, oui, je ne faisais pas du tout allusion à la déconstruction d'Héridienne. Oui. Je disais simplement qu'il y avait une déconstruction d'une notion. En tout cas, en véritable archéologue textuel, à travers les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, vous nous faites découvrir comment le mot « Messie », en hébreu, vous l'avez bien dit, « Mashiach », n'aviez rien à voir avec la figure d'un sauveur, mais signifiait quelque chose d'autre de manière très précise.
Voilà, Mireille Adastebel. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis philologue et philologue de la langue hébraïque à l'origine. Donc, que fait un philologue? Il ouvre un livre qui s'appelle « Une concordance », où c'est un recueil de toutes les citations bibliques bien classées, avec tous les versets où le mot apparaît. Et donc, il est très facile d'avoir comme ça, en un regard, la liste de toutes les occurrences d'un mot. Or, lorsque vous regardez Mashiach dans la Bible, eh bien, vous vous apercevez que vous avez deux catégories, HaKohen HaMashiach, le prêtre Mashiach, qui signifie « oint », ce n'est pas très euphonique en français, mais ça signifie tout simplement qu'il a reçu une onction qui le consacre, ou bien le roi « oint », HaMeler HaMashiach. Donc, ce sont des adjectifs ou des participes, que vous voudrez, mais qui désignent des personnages qui sont ancrés dans l'histoire, qui ont un statut spécial et pas du tout le personnage eschatologique que nous entendons lorsque nous utilisons le mot de Messie. Et bien plus, lorsque vous ouvrez les prophètes et Isaïe, le plus important d'entre eux, qui est appelé Messie ? Cyrus, roi de Perse. Pourquoi Cyrus, roi de Perse? Parce qu'il a été investi d'une mission spéciale par Dieu, qui est celle de libérer les exilés de Babylone et de les autoriser à rentrer en Judée, rebâtir le temple divin. Bon, mais il a reçu une onction, peut-être, car d'autres rois de l'Antiquité recevaient également une onction. C'est une forme de sacre, et on a connu ça encore en France il n'y a pas si longtemps, et on voit cela encore en Angleterre. Le sacre par une sorte d'huile parfumée dont le mélange est parfaitement connu, codifié.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que les rois de France, pendant très longtemps, ont été oints selon cette coutume des rois davidiques, parce qu'ils se considéraient comme descendants, descendants du roi David. Donc, le terme Messie, on le comprend maintenant, Mashiach, et vous le dites dans votre livre qui apparaît 39 fois dans cette concordance, ne désigne à aucun moment un Messie au sens moderne, au sens eschatologique, mais de ce verbe Mashar qui veut dire oindre, désigne l'investiture du grand prêtre. Et le sacrement du roi. Alors là, il y a une question qui se pose, parce que comment s'est fait le glissement ou comment s'est fait l'évolution du terme « Mashiach » comme celui qui est oint en termes de « Messie » au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire cette figure de sauveur que nous connaissons.
C'est tout l'objet de la première partie de mon livre, où effectivement je montre que le terme de Mashiach utilisé dans les psaumes a pu prendre une valeur poétique et une dimension qui ne correspondait plus à l'histoire, parce que les psaumes étaient des poèmes que l'on répétait, et même à une époque où le roi n'existait plus. Et on attendait toujours un fils de David, un Mashiach. Et puis, il n'y a pas eu que cela. Il y a eu aussi une convergence de textes qui apparaissent plus tard que les livres historiques ou la Torah dont nous venons de parler. Et j'ai souligné l'importance du livre de Daniel, je ne suis pas la première d'ailleurs, c'est quelque chose de bien connu, et de la vision du chapitre 7 du livre de Daniel, où vous avez une sorte d'apparition anthropomorphique de Dieu qui juge l'humanité, qui juge notamment les empires qui se sont succédés à travers le monde, et il condamne les empires mauvais, et il a à côté de lui comme un fils d'homme qui apparaît sur les nuées. On pense déjà depuis un auteur païen de l'Antiquité, Porphyre, que le livre de Daniel a été composé dans sa forme définitive au moment de la révolte des Maccabées pour annoncer la victoire de ceux qu'ils appellent les saints du Très-Haut contre le roi persécuteur Antiochus IV Épiphane. Mais il est évident que le temps passant, la vision a une telle force qu'elle s'impose et que donc les esprits travaillent sur cette vision et on attend un personnage surnaturel, d'autant que d'autres œuvres se greffent sur la première. Je viens de parler de Daniel, mais Daniel qui fait partie de ce qu'on appelle le canon biblique, mais il y a des livres qu'on ne lit plus, qui ont dû exister en hébreu ou en araméen à l'origine et qui ont été recueillis par la suite dans des églises d'Orient, comme par exemple le livre d'Enoch, qui joue un rôle très important dans l'église éthiopienne. Mmh. Eh bien, dans le livre d'Enoch, cette vision est reprise avec plus de force et donc le fils d'homme devient l'élu de justice et même à un moment donné, il est dit qu'il a préexisté au monde. Donc, on voit comment les textes se nourrissent les uns des autres. Et j'ajouterai aussi qu'il faut tenir compte non seulement de l'intertextualité, mais aussi des circonstances historiques. Car il y a des moments de l'histoire où les Juifs ont vraiment, vraiment besoin d'un sauveur.
Alors, ce que vous venez de dire, et on va y revenir tout de suite, c'est l'importance. Il y a eu plusieurs périodes déterminantes dans la naissance du messianisme. La période asmonéenne du 2e siècle avant l'ère chrétienne, la guerre des Juifs contre les Romains au 1er et au 2e siècle après, et beaucoup d'autres encore. Et je me posais la question, quel est le point commun de ces périodes? Qu'est-ce qui, dans l'histoire juive, suscite à chaque fois cette effervescence messianique? Vous venez de le dire très brièvement, mais en fait, ma précédente question était comment on était passé du terme Mashiach, c'était le terme que j'analysais, pour désigner le Messie, parce que dans la vision eschatologique de Daniel que vous venez d'évoquer, c'est la figure messianique, mais pas le nom. Il ne recouvre pas, comme vous l'avez bien dit, il s'appelle le Fils de l'homme, mais ce n'est pas encore le terme de Messie qui va lui être attribué. Oui. La question, c'était quand le terme de Messie va recouvrir cette figure du Sauveur.
Oui, mais il ne faut pas laisser de côté non plus une autre appellation, qui est l'appellation de Ben David. Fils de David, ça ne veut pas dire fils direct de David, mais ça veut dire descendant de David. Or, si on relit les textes de Samuel, on s'aperçoit que le prophète Nathan avait promis à David une postérité éternelle. Et puis, cela ne s'est pas réalisé. On l'a attendu au retour de l'exil de Babylone. On attendait un Tzemach David. Et Tzemach est même devenu, dans la tradition juive, un équivalent du Messie. Mais qu'est-ce qu'on attendait? Un rejeton de David qui régnerait à nouveau. Mais les Perses qui ont autorisé la reconstruction du temple n'ont pas autorisé la restauration royale. Mmh. Et donc, on s'en est contenté pendant des siècles, jusqu'au moment où, par les circonstances historiques, renaît une dynastie royale. Cette dynastie, c'est la dynastie asmonéenne. Est-ce qu'elle répond au modèle biblique? Mais pas du tout, parce que le modèle biblique veut séparer le pouvoir, si je peux dire, temporel et spirituel, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais en tout cas, la prêtrise et la royauté. Et voilà que c'est cette dynastie qui appartient à une lignée de Kohanim, de prêtres, cumule la royauté avec la prêtrise. Et c'est fort critiqué dans une partie du peuple. En outre, ils ne se comportent pas du tout comme des rois pieux et justes que l'on attendait. Ils persécutent très, très, très cruellement une partie de la population. Et ils amènent par leur dissension l'arrivée de Pompée, général romain, qui est dans la région. Donc, en fin de compte, cette dynastie hasmonéenne, qui a représenté la libération du peuple juif, n'a pas répondu à son attente. Et voilà qu'après, lorsque les Romains installent leur contrôle dans le pays, ils ne trouvent rien de mieux que de mettre un roi qui, pour les Judéens, est un étranger, puisque c'est un Iduméen. Certes, les Iduméens ont été convertis au judaïsme, mais ils sont juifs de religion, mais ils ne sont pas judéens ethniques. Et c'est Hérode, roi des Juifs, ami des Romains, vassal total, qui règne et qui alors massacre toute l'ancienne famille royale qui règne par la terreur sur son peuple, même s'il fait de grandes choses par ailleurs et qu'il a pu être appelé Hérode le Grand par ses sujets païens, puisqu'il en avait, il avait étendu son territoire. Alors à ce moment-là, il y a un vrai désespoir qui s'exprime et qui ne peut être transcendé que par le réveil d'un vieil espoir, à savoir, et s'il y avait un fils de David caché quelque part, qui est là, qui attend de se révéler. Et donc Ben David est un titre messianique qui n'est pas moins important.
Today I pray to get to know ya, please wanna be close to you. Yes, I'm so hungry, you're like water for my soul when it gets thirsty. Without you there's no me or the air that I breathe. Sometimes the world is dark and I just can't see. With these demons around all around, bring me down to negative vibe. But I believe, yes I believe, I said I believe. I stand on two feet, one be brought down on one knee. I fight with all of my might and get these demons to flee. Hashem's rays, fire blaze, burn bright in, I believe. Hashem's rays, fire blaze, burn bright in, I believe. Out of darkness comes light, twilight and to the heights. Crown lights burning up, out of to the twilight. So thank you to my God, now I finally got it right. And I fight with all of my heart and all of my soul and all of my mind. And what's the feeling, my love will be falling and ceiling. I give myself to you from the essence of my being. And I sing to my God, songs of love and healing. I want Mashiach now, time it starts a feeling. What's this feeling, my love will be falling and ceiling. I give myself to you from the essence of my being. And I sing to my God, songs of love and healing. I want Mashiach now. Reveal your soul, you gotta give yourself up and then you become whole. You're a slave to yourself and them don't even know. Them wanna live that fast life but your brain moves slow. If you're trying to stay high, bound to stay low. You want God but you can't afflate your ego.
Mireille Vaslebel, vous êtes peut-être un peu surprise de ce choix musical.
J'ai reconnu We Want Mashiach Now, voilà, au passage.
Dans ce morceau intitulé Un roi sans couronne, d'un artiste qui s'appelle Matisse Yahou, qui fait du, que vous connaissez certainement, enfin vous avez peut-être entendu parler.
Je ne suis pas si branché que ça.
Voilà. Il fait du chassidique reggae. Et dans ce chant, on a pu entendre plusieurs fois mêlé aux paroles en anglais l'expression Mashiach Now, le Messie maintenant. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, vous l'avez peut-être déjà évoqué parce qu'on suppose, enfin, on sait que c'est un artiste d'obédience Lubavitch et que, comme vous l'avez bien dit, les Lubavitch sont un mouvement chassidique qui insiste sur cette question messianique, non seulement comme le messie qu'il va arriver, mais même d'avoir conféré à leur maître, le rabbi de Lubavitch, une forme.
Oui, alors je ne vais pas faire de la sociologie contemporaine, ce n'est pas mon domaine, mais oui, le messie maintenant, ça marque une impatience et une impatience messianique qui a pu avoir des effets à travers les âges dans l'histoire du judaïsme. Par exemple, après la destruction du Second Temple, il a pu y avoir des juifs qui se sont raccrochés à l'espérance messianique. Ils étaient peut-être aussi encouragés par l'apparition du christianisme qui lui avait trouvé son messie. Et même si avant la destruction du temple, tous les juifs n'attendaient pas le messie, ça c'est aussi quelque chose que je démontre, oui. Parce qu'il y avait différents courants et ils ne s'entendaient pas entre eux. Dans le courant principal qui émerge, on peut penser que l'espérance messianique a été très importante. Et là, nous avons sont des textes aussi, des textes toujours qui ont échappé au courant majoritaire du judaïsme, mais qui représentent certainement quelque chose, ce que les érudits appellent deux Baruch et quatre Esdras, où on sent cette espérance messianique très très vivante, très ardente. Et puis qu'est-ce que ça apporte? Vraisemblablement, Bar Korba, la révolte de Bar Korba, appelé ainsi d'ailleurs fils de l'étoile par Rabbi Akiva, qui lui applique un verset dit messianique entre guillemets, mais où le mot messie n'apparaît pas, une étoile sortira de Jacob. Donc ce chef charismatique est le fils de l'étoile. Il va amener la destruction de l'empire du mal qui est représenté par les Romains à cette époque. Et puis bon, on sait bien que ça s'achève dans la catastrophe, au point que les rabbins du Talmud l'ont appelé Bar Kozba, c'est-à-dire le fils du mensonge. Mais cela a continué, car il y a eu des périodes de persécution, hélas, à travers l'histoire, où l'espérance messianique s'est réveillée. On a voulu avoir le Messie tout de suite, maintenant, et c'est cela qui a amené à tous ces épisodes, dont le plus connu est l'apparition de Sabbatai Tzvi, le fameux faux messie, qui, pour sauver sa vie, a préféré se convertir à l'islam, laissant ses suiveurs assez déconcertés, mais certains étaient prêts à le suivre jusqu'au bout.
Alors, c'est vraiment très intéressant la manière dont vous déployez cette histoire. On comprend très bien qu'il y a des sursauts messianiques. Rabbi Akiva, au plus deuxième siècle, que vous les appelez très bien le gardien de l'espérance, avec cette conjugaison du calcul de la fin des temps qu'on trouve dans Daniel, a vu dans ce Bar Korba peut-être non pas le Messie, mais en tout cas un sauveur. Et ça s'est mal terminé, puisque Hadrien, pour se venger de ces juifs combattants qui ont mis à mal ces légions romaines, a décidé de supprimer le nom de Jérusalem pour le remplacer par
Elia Capitolina,
et de remplacer le nom de la Judée par
Palestine.
C'est à partir de 135 que le nom de Palestine a été donné pour nommer ce territoire. Mais il y a dans ce que vous dites et dans votre livre qui déploie admirablement toute cette grande fresque, cette question très centrale du christianisme qui va lui accueillir un messie en la personne de Jésus-Christ, et Christos voulant dire précisément celui qui est oint, donc c'est la traduction grecque de Messie. Mais la question que je me suis posée, quelles sont les influences? Est-ce que les Juifs de l'époque ont accueilli Jésus comme Messie parce qu'on était dans une période d'attente et il était à ce moment-là bienvenu, et une fois qu'il est arrivé, est-ce qu'il y a eu une influence très importante ou pas du christianisme sur le judaïsme? Sur cette question du Messie.
Oui, effectivement.
Mireille Adas-Lebel.
D'abord, il faut savoir que la Bible a été traduite en grec, la Torah, au 3e siècle avant l'ère chrétienne, et que toutes les occurrences de Mashiach, y compris le Kohen Mashiach, le roi Mashiach, ont été rendues par Christos. Donc, c'est un terme qui n'est pas très courant en grec, mais auquel les lecteurs de la Bible en grec sont accoutumés. Je ne fais pas d'études du christianisme à proprement parler. Mais il est évident que la figure de Jésus s'impose dans cette quête du Messie. Et je me suis contentée de relire de très près les évangiles et de voir quel titre on applique à Jésus. Et en fait, on voit que ses contemporains ne savent pas comment l'appeler. Pour certains, il est un prophète. Pour d'autres, il est le fils de David. On a l'impression que pour le peuple, il est le fils de David qu'il attend. Pour les érudits qui ont lu les textes, il est plutôt le fils de l'homme. Mais il est aussi le fils de Dieu.
Et vous dites aussi, hein, je crois que c'est important de dire qu'il est aussi le fils de Joseph. Il est connu sous ce nom, le fils de Joseph.
Ce qui
va peut-être permettre de... en tout cas, vous le soulignez à un certain moment, je crois que c'est très important, c'est que la tradition assez tardive distingue deux messies, un messie fils de Joseph et un messie fils de David.
Voilà, alors là, je pense avoir trouvé par intuition quelque chose qui me paraît important. Lorsque vous lisez un ouvrage sur le Messie ou un article sur le Messie juif, vous voyez qu'en vérité, il y a deux Messies. Il y a le Messie fils de Joseph et le Messie fils de David. Et puis alors, sur le Messie fils de Joseph, vous trouvez des histoires que certains qualifieraient d'apocryphes, abracadabrantesque, notamment dans un livre très tardif qui s'appelle le livre de Zerubbabel. Le voici en guerrier qui meurt au combat. Et pourquoi est-ce que sa venue est indispensable pour faire venir en définitive le fils de David? Peut-être parce qu'on a quelques réminiscences de la guerre de Gog et Magog d'Ézéchiel. Enfin, on ne sait pas très très bien. Alors on cherche l'origine. Est-ce que c'est Bar Corba qui a inspiré ce Messie, fils de Joseph, puisqu'il est effectivement mort au combat? Est-ce qu'il s'agit encore d'autre chose? Il est appelé souvent fils d'Éphraïm aussi, Éphraïm qui est fils de Joseph. Faut-il remonter très très loin à la dispersion des tribus? Bon, je ne me contentais pas de ces explications. Je trouvais ça extrêmement bizarre. Et puis, ce n'est pas vraiment un dogme. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, comme d'habitude, il faut toujours revenir au texte. Quel est le premier texte où apparaît la mention de fils de Joseph? Bien, c'est dans le Talmud. Le sage qui en parle s'appelle Rabbi Dossa. Ah, mais attention, il y a deux Rabbi Dossa. Il y en a un de la fin du 1er siècle et un de la fin ou de la deuxième moitié du 2e siècle. Et que dit Rabbi Dossa? Il dit que le Messie, fils de Joseph, est mort et que le peuple l'a pleuré pendant très longtemps, et il cite un verset de Zacharie disant que la maison de David l'a pleuré, qu'on l'a pleuré partout dans le peuple. Alors, étant donné l'époque, quel est le Messie, fils de Joseph? Il n'y a aucune mention de guerre, aucune mention de combat. Quel est le Messie, fils de Joseph, que nous avons à disposition? C'est Jésus. Il est comme un fils de Joseph. On l'appelle ainsi dans les évangiles, dans certains passages. N'est-ce pas le fils de Joseph qui? Eh bien voilà, alors on va me dire comment un rabbin a-t-il pu appeler Jésus Messie, fils de Joseph? Eh bien parce qu'on l'appelait comme ça, en son temps, il a repris l'appellation de son temps. Et pour lui, visiblement, le Messie doit être fils de David, puisque fils de David est l'équivalent de Messie. Donc bon, je pense avoir éclairci un mystère.
Oui, moi je trouve que c'est, en vous lisant, j'ai été, j'avais déjà cette intuition, mais je ne connaissais pas le texte de Rabbi Dossa, et je crois que c'est assez convaincant, à la fois très convaincant et en même temps très polémique, c'est-à-dire que les Juifs reconnaissant Jésus comme Messie, mais fils de Joseph, disent en même temps qu'il n'est pas le Messie, fils de David. Qui serait pas, on ne dit pas que ça serait le vrai Messie, mais c'est le Messie qui est attendu par les Juifs. Parce qu'il y a une question qui s'est posée, pourquoi, et vous répondez dans votre livre, pourquoi les Juifs n'ont pas accueilli, accepté la messianité de Jésus, dans la mesure où on était quand même dans Jésus est juif, les apôtres sont juifs, les premiers chrétiens sont juifs, il n'y avait pas d'obstacle a priori à accueillir Jésus comme Messie.
Ajouté à cela, oui, que les Juifs étaient divisés en divers courants qui pourraient constituer des religions différentes à elles seules, entre sadducéens, pharisiens, esséniens, etc. Donc il y a quelque chose qui a choqué les autorités de l'époque et puis aussi les autorités romaines, parce que lorsqu'on inscrit au-dessus de la croix Jésus roi des Juifs, on ne fait que traduire Machiar. Comment voulez-vous qu'un Romain traduise Machiar? On explique à un Romain que le Machiar est un roi ouin qui doit régner sur Israël. C'est un rebelle en même temps, puisqu'on n'a pas droit à choisir un roi comme ça contre la vie des Romains, et eux traduisent par Rex.
Oui, mais vous dites aussi que dans votre livre que les Juifs, en tout cas les pharisiens, voyaient dans le Messie non pas une figure qui serait tuée, mais une figure qui serait de la vie, et qui serait porteur de vie. Et c'est la crucifixion de Jésus qui les a mis un peu à distance de la reconnaissance de cette messianité.
Oui, c'est certain que dans les disputes qu'on peut avoir au deuxième siècle déjà, dans le dialogue avec Tryphon, on sent que c'est ça le scandale au sens propre, le scandale de la croix. Oui, on n'attend pas un Messie souffrant, dit-on toujours dans le judaïsme, on attend un Messie triomphant, dit. Je cite entre guillemets, mais ça n'est pas si vrai que ça. Oui. Et puis, lorsqu'on regarde les choses de près, On s'aperçoit qu'en fait, la question du Messie est extrêmement vague, elle est mal définie, il n'y a pas d'autorité pour vous dire ce que va faire le Messie, quand il viendra, etc. Au fond, il y a dans les textes talmudiques, et ils sont rares par rapport à l'immense océan que représente le Talmud,
5 pages.
Vraiment, c'est vraiment pas grand-chose. Il y a les opinions les plus diverses.
Qui vont évoluer à travers le temps pour devenir, avec le chassidisme, avec la Kabbale, encore un Messie qui n'est peut-être pas un Messie qui est extérieur, qui vient sauver, mais une sorte de Messie intérieur. Oui. Je pense à ce texte de Rabbi Nachman de Bratslav qui dit que le mot Mashiach, ce sont les mêmes lettres que le mot Simcha, qui veut dire la joie. Oui. Et à partir du moment où on est porteur de joie, on exprime quelque chose d'un messianisme intérieur, personnel, et que toutes les joies conjuguées seraient une manière de sauver le peuple et l'humanité.
Oui, en fait, il y a toutes les idées. Il y a y compris l'idée que le Messie n'arrivera pas. Qu'il ne faut pas calculer le temps, parce que si on calcule le temps après et qu'il ne vient pas, après on se dira qu'il ne viendra jamais. Et il y a aussi l'idée que le Messie souffre, qui nous attend comme un lépreux aux portes de Rome, qu'il attend qu'on vienne le délivrer nous-mêmes. Donc ça, c'est-à-dire que la venue du Messie, en définitive, dépend de nous-mêmes.
C'est sur cette très belle remarque, la venue du Messie dépend de nous-mêmes, que nous terminons, Mireille Hadès-Lebel, cette émission. Je vous remercie. Enfin, c'était un réel, réel plaisir de m'entretenir avec vous. Les auditeurs pourront retrouver sur le site de l'émission toute votre bibliographie et les références de votre livre dont nous venons de parler, Une histoire du Messie, ainsi que les références de la programmation musicale de l'émission qui peut être podcastée et réécoutable pendant 1000 jours selon la formule maintenant consacrée. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager. Aujourd'hui à la technique, Bastien Virago, à la réalisation, Dany Journaud. Bonne fin de fête de Pessah, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.